émission présentée par Gilles Frémont sur Radio Immo.
Bonjour, bonjour à tous. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans 1000 millième, l'émission des gestionnaires de copropriété, des syndics de l'ANGC. Aujourd'hui, je reçois un homme politique, le député des Landes, Lionel Cos. Bonjour.
Bonjour.
Alors, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Aujourd'hui, on va parler du projet de loi qui sort là, hein, relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé des grandes opérations d'aménagement. On l'appelle loi copropriété, mais enfin bon, il y en a beaucoup. On est sur la prévention des copropriétés dégradées. On est aussi un petit peu sur la rénovation énergétique. Mais avant de rentrer dans cette loi et notamment les amendements que vous avez proposés en tant que député, vous êtes également président du CNH, le Conseil National de l'Habitat. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce conseil, son rôle, ses missions et un peu sa composition?
Oui, tout à fait. Mais écoutez, d'abord, merci de m'inviter dans votre émission. C'est toujours un plaisir d'échanger, bien entendu de présenter le CNH, mais aussi de pouvoir échanger sur les projets de loi que nous sommes amenés à voter à l'Assemblée nationale. Alors, le Conseil national de l'Habitat, que j'ai le plaisir et l'honneur de présider depuis un petit peu plus d'un an, est une instance qui est sous tutelle du ministre du Logement. Donc, les membres sont désignés par décret avec plusieurs collèges. Et le CNH a vocation non seulement à donner des avis sur les textes de loi de tous les ministères, d'ailleurs, concernant le logement, mais aussi peut se saisir de dossiers. Donc, depuis décembre 2023, nous sommes 83 membres. Moi, j'ai souhaité renforcer le Conseil national de l'Habitat. Il y a aussi des personnes qualifiées. Nous sommes passés d'un peu plus de 70 à 83. C'est pour vous dire que CNH prend de l'importance et qu'il y a eu beaucoup de demandes, de sollicitations pour intégrer le CNH. Donc, je m'en réjouis. Et on se réunit autant que nécessaire. Donc, on a des séances chaque fois que le gouvernement nous saisit. Donc là, on émet des avis. Mais je le réunis aussi pour travailler sur des thématiques sur lesquelles nous faisons des propositions que nous soumettons après au gouvernement. En 2023, nous avons réalisé donc 5 groupes de travail et nous avons travaillé sur 5 thématiques importantes. Les rapports ont été rendus donc au gouvernement dernièrement. Et pour 2024, nous avons déjà un groupe de travail en cours sur les territorialisations des politiques de l'habitat. Et bien entendu, nous allons lancer de nouvelles... nouveaux travaux pour pouvoir, je dirais, la fausse CNH, c'est qu'on a beaucoup d'experts, parce que dedans, on va retrouver, par exemple, la Fondation Abbé Pierre, le droit au logement, les syndicats, mais on va retrouver aussi les banques, la FFB, l'UNPI, la FPI, et les personnes qualifiées. Donc, la force du CNH, c'est ce que j'essaie de faire, en tout cas, de concrétiser, c'est qu'on arrive à trouver des consensus et à faire des propositions qui sont partagées par le plus grand nombre. Et c'est ce qu'on fait depuis, en tout cas, que j'ai le plaisir de le présenter. Idées. Et dans tous les rapports qui ont été rendus, vous verrez qu'ils ont toujours été actés à l'unanimité des membres. Ce n'est pas dire que certains n'ont pas rajouté des propositions complémentaires qui souhaitaient voir un annexe du rapport. Mais en tout cas, nous avons donc aujourd'hui des rapports sur les thématiques telles que le statut du bailleur privé, besoin en logement, les zonages, la filière DPE. Voilà, donc toutes ces thématiques, nous sommes arrivés à trouver des propositions et à définir un cadre réglementaire ou législatif pour ces sujets-là. Et l'objectif maintenant que je travaille avec le gouvernement, c'est d'arriver à faire avancer toutes ces idées.
Ok, alors merci pour cette explication complète. Donc je rappelle à nos auditeurs, CNH, Conseil National de l'Habitat, donc que vous présidez. Alors je vais revenir sur ce projet de loi relatif à l'accélération, la simplification, la rénovation de l'habitat dégradé. On est sur ce sujet-là, l'habitat dégradé. Première question, pourquoi cette loi? Qui l'a commandée? Dans quel contexte?
Alors, c'est une loi qui a été voulue, en tout cas politiquement, hein, à travers un projet de loi par le président de la République il y a déjà quelques années. Il avait, même à l'époque, c'était le ministre Olivier Klein, il avait mandaté pour commencer à rédiger une proposition de projet de loi. Donc le texte qui a été voté a déjà démarré son écriture, je dirais, à l'époque du ministre Olivier Klein. Ça a été repris après par Patrice Vergriete jusqu'à ce qu'on puisse le finaliser en ce moment. Alors la raison et le souhait pris dans la République, c'est, comme on l'a dit, c'est lutter effectivement contre tous ces logements qui, bien sûr, a derrière un impact sur quasiment 1 million de Françaises et de Français aujourd'hui, hein, un impact qui peut être sur la santé, un impact, bien sûr, sur tout ce qui est éducatif, parce que lorsque vous avez des enfants aussi, dans certaines conditions, dans des logements sur lesquels vous ne pouvez pas travailler dans de bonnes conditions, on ne peut pas accepter dans notre pays, en effet, de rester inactif et de ne pas faire évoluer ces situations-là. Donc, ce qui représente à peu près 520 000 logements, à peu près, c'est ce qui est estimé, avec 110 000 copropriétés. Donc, ce projet de loi a été voulu, voilà, par le président pour qu'on se donne sur la période à venir. Non seulement l'État y met de l'argent à travers l'ANA, hein, de la rénovation, mais on a voulu l'accompagner de mesures très précises sur l'accélération, effectivement, des travaux, sur voilà, plein de propositions qui, aujourd'hui, sont actées, quoi.
Alors, justement, vous avez déposé des amendements. On va en voir 2-3, hein, les oui. idées fortes, notamment sur la rénovation énergétique, proposer de réduire la règle de majorité de vote en Assemblée Générale de copropriété pour la passer de la règle de majorité de l'article 25, c'est-à-dire majorité absolue, qui bénéficie aujourd'hui quand même d'une passerelle, hein, pour voter en deuxième lecture immédiate à l'article 24. Votre proposition, c'était de passer directement à l'article 24, d'abaisser la règle de majorité.
Tout à fait, ça me semble important puisque... Aujourd'hui, moi j'aime bien lorsque j'essaie de travailler sur des projets de loi, de voir ce qui pourrait être efficace. Et vraiment prendre des décisions, souvent peut-être un peu directives, un petit peu autoritaires, mais après il suffit de les étaler, d'en débattre, mais vraiment avoir des propositions et qu'on puisse avoir un débat pour être, je dirais, volontariste. Et c'est souvent comme ça que j'essaie d'apporter mes amendements ou les projets de loi que je peux porter à l'Assemblée nationale. Donc on a aujourd'hui le problème que je disais, c'est qu'on a une lente de prise de décision et on a des travaux qui se font en 5 ans, 10 ans, voilà, sur des périodes qui sont souvent inacceptables et qu'on ne peut pas voilà, laisser filer de façon indéfinie. Donc je me suis dit, ben, à ce moment-là, il faut vraiment que ces travaux-là, comme les gros travaux de copropriété, on puisse accélérer et que, je dirais, les copropriétés prennent leurs responsabilités, tous les propriétaires, et qu'on puisse, à travers l'article 24, prendre des décisions de travaux donc énergétiques, parce que c'est un enjeu. On ne peut pas dire que c'est notre priorité, que c'est un enjeu essentiel, et ne pas se donner les moyens d'accélérer et puis d'avancer. Voilà, parce qu'à force de donner, vous savez mieux que moi, mais des convocations, reconvocations, etc., de laisser du temps au temps, comme disait sur certains dossiers, c'est bien laisser du temps au temps. Là, je pense que non. Il faut que le temps soit accéléré.
Oui, et puis il faut faire simple. Enfin, en tout cas, nous, les praticiens, gestionnaires de terrain, on est favorables à cette réduction de règles de majorité parce qu'après tout, les gros travaux d'entretien se votent déjà à la majorité de l'article 24 depuis des décennies.
Et ça va de pair. Je crois qu'il faut qu'on associe les gros travaux avec les travaux énergétiques.
Et souvent, ça va ensemble. Et d'ailleurs, avant la loi Elan, je rappelle que l'article 24 petite H prévoyait déjà que les travaux dits embarqués, donc les travaux d'isolation, quand on fait un ravalement ou une toiture, se votaient déjà à la majorité de l'article 24. C'était déjà le cas avant la loi Elan. Deuxième idée forte, deuxième amendement dans le projet de loi venant de votre part, la notification électronique par défaut. Donc on parle de quoi ? On parle de la convocation d'Assemblée Générale, des mises en demeure essentiellement. Aujourd'hui, la règle, c'est en papier et sur demande express du copropriétaire, sur électronique, donc la LRE, la lettre commandée électronique. Votre proposition, c'est d'inverser la règle.
C'est que ça parte automatiquement sur ceux qui ne le souhaitent pas. Je pense que ça va dans le sens de l'histoire. Voilà, il faut accompagner la société. Aujourd'hui, il y a du numérique, quasiment tout le monde l'utilise. Il faut laisser la possibilité à ceux qui ne veulent pas l'utiliser de pouvoir effectivement recevoir les convocations, les éléments par papier. Mais je crois qu'il faut qu'on arrive là aussi à répondre à l'enjeu de ce projet de loi qui est d'accélérer, d'aller plus vite et d'être efficace. Donc c'est une des solutions pour pouvoir accélérer et justement être plus efficace dans les prises de décision.
Et je rappelle, parce que les opposants à cette mesure parlent de l'électronisme, c'est une notion que j'ai découvert, que ceux qui souhaitent continuer à recevoir leurs recommandés en papier peuvent le demander et ils recevront leurs recommandés en papier. Hein. Ça ne change rien pour eux. Hein.
Exactement. Vous savez, un conseil communautaire, un conseil municipal, c'est à peu près la même chose. Hein. Moi, j'ai été maire et conseiller communautaire avant d'être député. Et on avait le choix, recevoir en électronique ou en papier. Enfin, en tout cas, c'était électronique à priorité. Et si on ne voulait pas, on pouvait recevoir en papier les convocations. Voilà, donc c'est la même chose. Toute la société évolue. Il faut que ça évolue aussi au niveau... des copropriétés.
Une mesure de bon sens, et pour nous, syndic, ça nous aidera à éviter le risque des retards de notification par les facteurs et donc la notification hors délai qui expose clairement toutes les assemblées générales à des annulations devant le tribunal par des copropriétaires procéduriers qui profitent de ce petit vice pour faire sauter les assemblées générales. Avec la LRE, on a moins ce risque.
Mais je pense même que vous pourrez, les syndics, aller encore plus loin. À terme, moi je suis en train de travailler aussi pour le CNH, hein, qu'on ait des plateformes où on puisse trouver les délibérations, voilà, comme ça c'est mis à jour en temps réel, on peut débattre, chacun va se connecter, il sait qu'à partir de telle date, il peut trouver les convocations, les éléments, etc. Voilà, l'étape suivante, c'est celle-là. Et ça vous permettra, je pense, d'avancer et d'avoir des solutions beaucoup plus efficaces.
Tout à fait, d'autant que l'extranet est déjà obligatoire, et donc on pourrait aller chercher ces informations sur l'extranet. Troisième idée forte que vous avez proposée, ça ne s'est pas passé, mais l'idée est très intéressante, c'est de rendre obligatoire le syndic professionnel pour toutes les copropriétés de plus de 5 lots. Actuellement, je rappelle que le syndic est obligatoire, mais ce syndic peut être professionnel ou non professionnel. On dit aussi bénévole. Oui. Votre proposition, c'était de rendre obligatoire le syndic professionnel pour tous les immeubles de plus de 5 lots. Pourquoi ?
Je veux en tout cas que le débat se poursuive. Parce que pareil, on se rend compte qu'aujourd'hui, quand on a des copropriétés à gérer, quand on a des gros travaux, quand on a des emprunts lourds, en plus qui sont dans ce texte de loi, hein, qui vont pouvoir être pris, on a besoin de compétences derrière, on a besoin bien sûr d'accompagner, de rassurer tous les propriétaires, on a besoin d'avoir un suivi de chantier, enfin bon, vous le savez mieux que moi, ce sont des compétences qu'il va falloir continuer à acquérir et à faire avancer. Donc je pense qu'aujourd'hui, on peut avoir un syndic de bénévoles si éventuellement il y a des gens qui ont la compétence, mais faut-il encore l'acter, le valider ? Ça, on peut trouver un process. Mais je crois qu'à côté de ça, il faut des syndics de professionnels pour accompagner justement toutes les copropriétés qui n'ont pas forcément cette compétence et qui ont besoin d'avancer. Ça me semble aller de bon sens. Je crois que voilà, les enjeux sont tellement importants, tellement lourds qu'on ne peut pas prendre le risque d'avoir des syndics qui malheureusement ne seraient pas à la hauteur. Donc pour ça... il faut déjà acter ce principe, il faut continuer à débattre et avancer là-dessus, faire des propositions. Et ça va de pair avec justement le fait de continuer à améliorer la professionnalisation des syndics et donc toutes celles et tous ceux qui travaillent dans ces métiers-là. Je pense que c'est aussi quelque chose qui permet de reconnaître ce travail et de dire, je pense qu'il y a quelque chose d'important à faire, qu'il y a une filière à créer, qu'il y a peut-être un ordre des syndics à créer, qu'il y a des choses à mettre en place. Réfléchissons. Et essayons de travailler, de faire des propositions. En tout cas, moi, je ne lâcherai pas. Et je suis prêt, si nécessaire, à l'intégrer dans d'autres textes de loi ou à travailler sur des PPL, propositions de loi. Enfin, en tout cas, je crois énormément au fait que nous avons besoin d'avancer dans ce sens-là.
Alors effectivement, et dans l'exposé des motifs de votre amendement, vous reprenez certains chiffres et certaines statistiques de l'ANA, qui est le teneur du Registre national des copropriétés, qui démontre une certaine corrélation entre... petit immeuble, copropriété dégradée et syndic bénévole. Il est vrai que c'est parmi, et d'ailleurs c'est la Fondation Abbé Pierre hein, qui le dit, c'est parmi les micro-copropriétés qu'on trouve le plus de copropriétés dégradées, et c'est aussi parmi les micro-copropriétés qu'on trouve le plus de syndic bénévole. Le lien direct n'est pas forcément à faire, mais en tout cas, on sent qu'il y a une corrélation. Il y a aussi des copropriétés dégradées gérées par des syndics professionnels, on est d'accord.
On peut en trouver.
Mais cette statistique est quand même assez parlante.
C'est parlant et ça prouve bien qu'on a besoin d'y réfléchir. Voilà, alors... moi, j'ai mis à partir de 5 lots, mais on peut y retravailler avec les données de l'ANA, comme vous l'avez dit. Il faut regarder quel est le bon nombre de lots nécessaires. Au bout d'un moment, il faut lancer le débat. Il faut au moins acter quelque chose. Et puis, oui, j'ai rien contre un syndic de bénévoles. Mais si on veut un syndic de bénévoles, parce qu'on a la possibilité d'avoir des compétences, faut que ces compétences soient actées. Et que, je dirais, les enjeux de lutte contre les copropriétés dégradées, puisque c'est notre objectif, moi, ce que je veux, c'est que ce soit atteint. Il ne s'agit pas de prendre des mesures pour se faire plaisir. Mais je pense que tous les amendements que j'ai portés, c'est ou bien pour faire accélérer la lutte contre justement les copeaux dégradés, ou rassurer en tout cas les propriétaires pour qu'ils sachent que derrière, ils ont des professionnels qui les accompagnent. Je crois que c'est ça qui est important, parce qu'aujourd'hui,
ou
les propriétaires qui
financent,
qui payent. Alors, c'est facile de dire aux propriétaires, vous n'allez pas payer, on va vous le faire. OK, mais il faut que la qualité du service soit au rendez-vous. Donc, il faut qu'on garantisse derrière, effectivement, qu'ils soient le mieux accompagnés pour ne pas tomber dans ce problème de logement insalubre, de marchand de sommeil, parce que ça peut aller très, très vite. Ça peut aller très, très vite.
Et d'ailleurs, dans les obligations, la nouveauté là, qui est sortie dans le projet de loi, il y a l'obligation pour les syndics professionnels de suivre une formation continue sur les copropriétés dégradées. Ça, c'est une idée qu'on avait nous aussi portée à l'ANGC. Mais cette formation continue ne s'applique qu'aux syndics professionnels et pas aux syndics non professionnels. Donc, ça rejoint...
C'est pour ça
que
ça doit être la base. Voilà. Et après, sur l'exception, on peut peut-être donner des agréments. Imaginons que vous êtes syndic, vous avez des compétences, vous êtes propriétaire dans une autre copropriété, vous voulez faire à titre bénévole la gestion de la copropriété, il n'y a pas de raison qu'on vous le refuse si on est sûr que derrière ceux qui s'engagent ont les compétences pour le faire. Voilà, c'est un petit peu le sens de la réflexion et du débat que je veux poursuivre.
Je rappelle également que le syndic non professionnel n'a pas de caisse de garantie pour la détention des fonds mandants qu'il manie. Alors avec les prêts collectifs, les subventions, c'est des enjeux financiers qui peuvent être très importants. Le débat, moi j'ai regardé le débat à l'Assemblée nationale, j'ai regardé comment vous vous êtes défendu, proposé les amendements. Est-ce qu'il y a, sur le plan, là on va parler purement politique, est-ce qu'il y a des tendances politiques entre les partis autour de la copropriété, autour des syndics? Est-ce que quand on est LFI, on est plus pro-copropriétaire? Est-ce que quand on est LR, on est plus pro-syndic? Alors vous, je rappelle que vous êtes Renaissance. Moi, j'avais l'impression que tout le monde était plutôt contre les syndics. Alors, je suis peut-être un petit peu trop parano. Mais est-ce qu'il y a des tendances, des colorations? Est-ce que ce thème de la copropriété et plus particulièrement du syndic, qui est le représentant légal de toutes ces copropriétés, a des couleurs politiques, des odeurs politiques?
C'est assez transpartisan. Bon, globalement, les débats se sont bien passés à l'Assemblée nationale. Maintenant, on peut noter que sur certains sujets, nous avons eu des points de divergence, en effet. Et c'est vrai que lorsque j'ai proposé les amendements sur le fait de mettre les syndics professionnels en avant et de pouvoir travailler de façon plus étroite avec les syndics professionnels, j'ai pas eu énormément de soutien de la part de mes collègues.
On l'a vu.
Mais... Je pense que ça vient de l'ADN, de la philosophie politique de certains groupes politiques que nous avons à l'Assemblée. Pour être clair, je pense que côté gauche de l'hémicycle, globalement, on considère que les syndics ont plutôt tendance à prendre de l'argent aux propriétaires pour un service qui n'est pas forcément à la hauteur. C'est pour ça que justement je répondais sur les amendements que j'ai proposés pour garantir ça, parce qu'il est important de le garantir. Donc moi je préfère être force de proposition que de rester sur ce constat-là qui n'apporte rien, qui ne fait pas avancer le débat. Donc il y a eu effectivement cette réaction de la part de certains. Et puis peut-être même sur la gauche de la gauche de l'hémicycle, toujours ce lien avec la propriété privée qui est toujours en débat. C'est-à-dire, on considère que la propriété privée, on doit pouvoir la retirer, n'est pas un droit constitutionnel, et que derrière, il faut être beaucoup plus dur avec les propriétaires, il faut être, etc., etc., etc. Et donc, il faut trouver le bon équilibre. Je crois qu'il ne faut pas tomber dans les extrêmes, il faut être efficace, équilibré dans les propositions que l'on fait. Mais c'est vrai qu'on a revu globalement sur ce projet de loi ces débats, quoi. Voilà, ça a été assez... révélateur.
RN, est-ce qu'ils ont
quelque chose qui se dégage? J'avoue qu'au bout de quelques jours en commission et quelques jours en séance, j'ai pas compris quelle était leur volonté. Sous prétexte de défendre les Françaises et les Français, je sais pas trop qui défendent au final. Donc on les a pas vus sur les syndics, on les a pas vus sur les copros, on les a pas vus sur beaucoup de choses. Donc je trouve pas la logique et l'ADN, en tout cas, de ce qu'ils ont voulu porter. Voilà. À titre personnel... Ça m'a pas fait flash.
Alors effectivement, bon, nous on a vu que à gauche certains associe un peu vite et facilement sous forme de préjugés le syndic avec les marchands de sommeil, qu'à gauche de la gauche revenaient invariablement les problèmes de logement insalubre. Il y a que ça. Enfin, la France n'est pas que des logements insalubres. Et c'est vrai qu'on a l'impression que le syndic, même de la proposition que vous avez fait sur le syndic professionnel obligatoire, je crois que c'est un représentant LR qui a répondu en disant bah, « les syndics bénévoles, ça marche tout aussi bien », comme s'il ne faisait pas de distinction entre les deux.
Ouais, mais toujours pour pouvoir faire croire aux propriétaires que ça va leur coûter moins cher. Vous savez, ça c'est toujours pareil, hein. On veut faire le boulot à moindre coût, à tirer vers le bas. Moi, c'est pas mon objectif, je veux tirer vers le haut et expliquer aux gens pourquoi ils en ont pour leur argent. Donc tout doit s'expliquer, il faut avoir le courage de le faire et de dire aux gens que si demain leur copropriété elle est bien entretenue, ils y gagneront à terme. Parce qu'en effet, peut-être que ça coûtera moins cher, ils auront moins de difficultés, etc. etc. Donc je préfère entrer dans ce débat-là que de vouloir faire croire aux Français qu'on va toujours leur trouver des solutions pour que ça coûte moins cher, qu'ils arriveront toujours à passer entre les gouttes, etc. etc. quoi. Ça c'est comme la grande distribution qui tire toujours vers le bas et maintenant on est en train de constater qu'au final, ben, on nous fait manger un peu de la merde.
Excusez-moi du mot. La qualité, ça se paye.
Voilà, que la qualité n'est pas là. Donc, il faut savoir et il faut avoir le courage de le dire. En tout cas, c'est dans ce sens-là que je continuerai à travailler sur ce sujet parce que je vois des syndics professionnels, je sais ce qu'ils font, je vais en voir d'autres.
Vous
je compte sur vous pour d'ailleurs aller voir d'autres assemblées générales éventuellement. Je suis très, très preneur justement de voir le débat parce qu'au-delà des compétences techniques, qu'il vous faut. Il vous faut aussi les compétences, je dirais, pour la conduite
humaine,
du changement et arriver à faire adhérer les propriétaires à l'objectif que vous donnez à leur bien immobilier, qui n'est quand même pas rien, qui est important. Donc, derrière, il faut, je dirais, faire adhérer la majorité, voire la totalité des propriétaires. Et ça, c'est une mission qui est compliquée, qui est essentiel, je peux vous dire, parce que c'est un peu celle que je fais quand je suis à l'Assemblée. Si je veux faire passer les amendements, il faut que j'arrive à faire comprendre et attirer la majorité des parlementaires, etc. Et c'est comme ça dans tous les métiers, ça se travaille, c'est pas facile. Et je pense qu'on a besoin de vous pour pouvoir y arriver.
Alors j'invite tous les parlementaires à venir assister à nos assemblées générales et à faire des vies ma vie pour voir notre boulot de syndic. Ils s'y intéresseront, ils verront aussi les personnes qui travaillent derrière, les gestionnaires, les comptables, les binômes, les assistants, les assistantes. Et d'ailleurs, on fait ce travail également avec les médias, les journalistes, pour changer un petit peu cette image.
J'y serai.
Et effectivement, vous allez venir à une de mes assemblées générales où on a une rénovation énergétique à l'ordre du jour, un immeuble des années 60, bien passoire thermique. Donc, ce sera intéressant. Vous verrez un peu les débats. Je reviens un peu pour finir l'émission là-dessus. Bon, ça commence un petit peu à dater, là, un petit mois. Gabriel Attal, dans son discours de politique générale, nous a fait une sortie que personne n'a compris. Il voulait déverrouiller les syndics en même temps que les pharmaciens qui vendent des médicaments en ligne. On n'a pas vu le rapport. Sachant que la profession n'est pas du tout inaccessible, hein, la carte, pour obtenir la carte syndic, il faut quatre choses, hein, un diplôme, bac plus 3 ou un BTS profession immobilière, c'est un bac plus 2, très accessible, une caisse de garantie, donc ce qui est normal pour garantir les fonds, une assurance responsabilité civile professionnelle, classique, et un casier judiciaire vierge. Alors on n'est pas du tout verrouillé, on n'est pas une casse, on n'est pas une corporation, on n'a pas compris cette sortie. Est-ce que vous avez des informations? Vous êtes comme nous, circonspect.
J'étais très surpris, effectivement, quand j'ai entendu cette intervention dans l'hémicycle. Surtout que j'avais eu l'occasion de discuter avec le Premier ministre quelques jours avant. On avait parlé, je savais qu'il y avait un débat sur la loi SRU, que je ne partage pas forcément avec lui, voilà, sur plein d'autres sujets. Mais alors, sur les syndics, ça n'avait pas été à l'ordre du jour. Et d'ailleurs, je n'ai pas retrouvé dans les traces écrites du discours. Donc, je pense que c'est quelque chose qui a dû lui être soufflé à l'oreille avant d'intervenir dans l'hémicycle en lui disant « Tu parles simplification, simplification. On a une superbe idée pour simplifier. On va, voilà, sur le logement, le syndic, ça n'a pas été encore dit, ça n'a pas été peut-être dit de façon officielle et de façon forte sur le plan politique. Banco, vas-y. » Bon, on va en débattre, mais ça ne va pas dans le sens, vous l'avez compris, de ce que moi je souhaite porter. Et c'est pour ça que je souhaite être force de proposition et lui montrer qu'on peut faire autre chose et qu'on peut peut-être aller plus loin, être plus efficace pour atteindre nos objectifs que l'on partage tous. sont ceux du président de la République, en allant plutôt vers une professionnalisation, une reconnaissance des métiers. Voilà. Donc, le débat est ouvert et je compte sur vous, sur tout le monde, et j'espère qu'on va tous collectivement y arriver à faire comprendre que, en effet, il faut aborder ce sujet différemment et puis il faut faire confiance aux gens.
Et le débat sera passionnant.
Il faut arrêter de tirer les gens vers le bas et de toujours, vous voyez, faire à minima et faire croire que, en faisant le moins possible, on va régler tous les problèmes. Non, il faut avoir le courage de dire ce dont on a besoin pour atteindre nos objectifs.
Bah écoutez, on participera activement et positivement, de façon constructive à tous ces débats, bien sûr en faisant, comme nous l'avons toujours fait, la promotion de notre métier de syndic au service des syndicats de copropriétaires, eux-mêmes composés des copropriétaires. Je vous remercie Lionel Cos. Je rappelle que donc vous êtes député Renaissance des Landes et président du CNH, le Conseil National de l'Habitat. Je vous remercie, c'était passionnant encore une
fois. Merci beaucoup, merci à vous.
À bientôt, ciao.
1000 millième, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.